Chapitre 7, le plus court du livre. La mère de Molly fut la première qui s'aperçut du changement survenu dans la taille de sa fille. Et, pour le cacher à ses voisines, elle eut la sottise de l'habiller de cette robe à la française que Sophie lui avait envoyée, quoique cette jeune personne n'eût pas la moindre idée que la pauvre femme aurait la faiblesse de souffrir qu'une de ses filles la portât sans en changer la forme. Molly fut enchantée de la première occasion qu'elle eut jamais de montrer sa beauté avec avantage. Car, quoiqu'elle se permît fort bien de se contempler dans un miroir, lors même qu'elle ne portait que des haillons, et quoiqu'elle eût sous ce misérable vêtement conquis le cœur de Tom Jones, et peut-être celui de quelques autres, elle pensait que ce surcroît d'ornement ajouterait beaucoup à ses charmes, et multiplierait ses conquêtes. Molly s'étant donc habillée avec cette robe, ayant mis un bonnet neuf garni de dentelles et quelques autres parures que Tom lui avait données, parut à l'église le dimanche suivant, un éventail à la main. Les grands se trompent s'ils croient s'être appropriés toute espèce d'ambition et de vanité. Ces nobles qualités brillent avec autant d'éclat dans une église de campagne et sous le porche qui la précède que dans un salon et dans un cabinet. On forme dans une sacristie des projets qui ne déshonoreraient pas le conclave. Ici est le ministère, là l'opposition, et des deux côtés il y a des complots, des perfidies, des partis et des factions, comme à la cour. Les femmes n'y mettent pas moins habilement en pratique que tous les artifices de leur sexe, que celles qui leur sont supérieures par la beauté, le rang et la fortune. Il y a aussi des prudes et des coquettes. Il y a de la parure, des œillades, de la jalousie, de l'envie, de la malice, de la médisance, en un mot, tout ce qu'il y a de plus commun dans les plus brillantes assemblées, et dans les cercles les plus polis. Que les grands ne méprisent donc pas plus longtemps l'ignorance de leurs inférieurs, et que le vulgaire cesse enfin de se moquer des vices de ses supérieurs. Il y avait déjà quelque temps que Molly était assise, avant qu'elle eût été reconnue par ses voisines. Et déjà un murmure se faisait entendre au milieu de l'assemblée. On se demandait tout bas « Qui est-elle ?» Mais quand on la reconnut, on entendit dans l'église, et notamment du côté des femmes, un ricanement sourd et prolongé, qui à la fin éclata au point que M. Allworthy fut obligé d'user de son autorité pour rappeler l'ordre et la décence. Chapitre 8. Récit d'une bataille dans le style d'Homère. M. Weston avait une terre dans cette paroisse, et comme son château n'était pas beaucoup plus éloigné de cette église que de la sienne, il venait très souvent y entendre le service divin. Le hasard voulut qu'il y assistât ce jour-là avec Sophie. Sophie fut charmée de la beauté de Molly, qu'elle plaignit d'avoir été assez simple pour s'habiller de cette manière, lorsqu'elle remarqua l'envie que cette parure avait fait naître dans le cœur de ses égales. À son retour au château, elle envoya chercher le garde-chasse, auquel elle ordonna de lui amener sa fille, lui disant qu'elle pourrait la placer dans le château, et peut-être même auprès de sa personne, quand sa femme de chambre, qui allait la quitter, serait partie. Le pauvre Seagrim fut frappé de cet ordre comme d'un coup de foudre, car il n'ignorait pas le changement opéré dans la taille de sa fille. Il répondit, en bégayant, qu'il craignait que Molly ne fût trop maladroite pour servir madame, attendu qu'elle n'avait jamais été en service. « N'importe, répliqua Sophie, elle apprendra bientôt. Elle me plaît et je veux l'essayer. » Black George retourna sur le champ vers sa femme, sur les prudents conseils de laquelle il comptait pour se tirer de cet embarras. Mais, à son arrivée, il trouva la maison tout en désordre. Cette robe avait excité une si violente envie que lorsque M. Allworthy et la noblesse du comté eurent quitté l'église, la rage qui s'était contenue jusque-là éclata à la fin et causa le plus grand tumulte. D'abord, elle s'exhala en mots injurieux, en ris, sifflets et gestes méprisants. Mais elle eut recours à la fin à certaines armes qui se lancent avec la main, et qui, bien que de leur nature elles ne puissent causer la perte de la vie, ni même celle d'un seul membre, étaient pourtant encore assez à craindre pour une dame bien habillée. Molly avait trop de cœur pour supporter ce traitement avec patience. Ayant donc, mais arrêtons-nous. Nous n'avons pas assez de confiance dans nos talents. Qu'on nous permette d'appeler un pouvoir supérieur à notre secours. Vous donc, muse, quoi que vous soyez, qui aimez à chanter les batailles, toi surtout qui raconta autrefois le massacre qui eut lieu dans les champs où combattirent Hudibras et Trulla, si ton ami Patelin ne t'a pas laissé mourir de faim, assiste-moi en cette occasion. Tout n'est pas au pouvoir de tous. » Comme un nombreux troupeau de vaches beuglent et mugissent dans la cour d'un riche fermier, si, tandis qu'on les trait, elles entendent à quelque distance leurs veaux se plaignant du vol qu'on leur fait, ainsi beuglait la populace du Somersetshire, faisant entendre au loin autant de cris et de sons différents qu'il y avait d'individus ou plutôt de passions parmi eux. Quelques-uns étaient mus par la rage, d'autres étaient frappés de crainte. Le plus grand nombre ne songeait qu'à se divertir. Mais surtout, l'envie, sœur de Satan et sa compagne assidue, animait cette foule et excitait la fureur des femmes qui ne se furent pas plutôt approchées de Molly qu'elles la couvrirent à l'envie de boue et d'ordures. Molly, ayant en vain tâché de faire une retraite honorable, fit volte-face et, se saisissant de la plus déguenillée de toutes, que l'on nommait Bess, et qui marchait à la tête des autres, elle la renversa d'un seul coup. Toute l'armée ennemie, quoiqu'au nombre de près de 100 combattants, voyant la destinée de son général, recula précipitamment et se retira derrière une fosse nouvellement creusée. Car le champ de bataille n'était autre que le cimetière, où l'on devait inhumer quelqu'un le soir même. Molly poursuivit sa victoire, et ramassant un crâne qui se trouvait sur un des bords de la fosse, le lança avec tant de fureur qu'en ayant frappé un tailleur à la tête, les deux crânes à leur rencontre rendirent un son également creux, et le tailleur prit la mesure de sa hauteur sur la terre où les deux crânes demeurèrent à côté l'un de l'autre, laissant douter quel était le meilleur des deux. Molly, prenant ensuite un os de cuisse à la main, tomba sur les fuyards, et donnant des coups à droite et à gauche avec la plus grande libéralité, renversa un grand nombre de puissants héros et de redoutables héroïnes. Ô muse, dis les noms de ceux qui succombèrent dans cette fatale journée. Jacques Tweddle sentit le premier l'os fatal sur le derrière de la tête. Il avait été nourri sur les bords agréables du Stawa qui serpente si agréablement. C'est là qu'il avait appris la musique vocale, dont les jours de fête et dans les veillées, il réjouissait les nymphes et les bergers lorsqu'il dansait sur l'herbe fleurie, tandis qu'il jouait du violon et s'accompagnait en chantant. Hélas, à quoi lui sert son violon? Il n'a pu empêcher sa chute. Après lui, le vieux Etchepaul, le châtreur de truies, reçut sur le devant de la tête un coup de notre Amazone et tomba sur le champ. Il était d'une grosseur si extraordinaire qu'il fit en tombant presque autant de bruit qu'une maison. Sa tabatière sortit en même temps de sa poche. Molly s'en empara comme d'une dépouille légitime. Ensuite, Kate, la fille du moulin, tomba malheureusement sur une pierre tombale dont l'encoignure, l'ayant accrochée par son bas qui lui tombait sur le talon, renversa l'ordre de la nature en donnant à ses pieds la supériorité sur sa tête. Betty Pippin et le jeune Roger, son amant, tombèrent tous les deux sur le gazon. Ô malheur, c'est elle qui baise la terre et lui regarde le ciel. Tom Freckle, fils du forgeron, fut ensuite victime de la rage de Molly. C'était un ouvrier très ingénieux qui faisait d'excellents patins. Ceux avec lesquels il se cassa le cou ce jour-là même étaient son chef-d'œuvre. S'il eût alors été occupé à chanter les psaumes dans l'église, il aurait évité cet accident. Miss Crow, la fille du fermier, John Giddish, fermier lui-même, Nan Touch, Esther Gottling, Will Spray, Tom Bennett, les trois Miss Potter, dont le père tenait l'auberge du Lion Rouge, Betty, la femme de chambre, Jack Horsler et beaucoup d'autres moins distingués roulèrent au milieu des tombeaux. Ce n'est pas que le bras vigoureux de Molly les eut tous atteints, mais un grand nombre dans leur fuite avaient été renversés l'un par l'autre. La fortune, craignant d'avoir agi contre son caractère, et ayant trop longtemps penché du même côté, d'autant plus que c'était celui de la justice, se retourna précipitamment de l'autre. La bonne femme Brown, femme d'Ezekiel Brown, et de la moitié de la paroisse pour le moins, ne souffrit pas plus longtemps la fuite honteuse de son parti. Elle s'arrêta tout court, et appelant à haute voix tous les fuyards, elle parla ainsi. « Hommes du Somersetshire, ou plutôt femmes du Somersetshire, N'êtes-vous pas honteuse de fuir ainsi devant une seule femme? Mais si personne ne veut s'opposer à sa fureur, moi et Jean Top qui est ici, nous aurons seuls l'honneur de la victoire. » Ayant ainsi parlé, elle s'élança sur Molly Seagrim, lui arracha sans peine l'os qu'elle avait à la main, et lui enleva en même temps son bonnet de dessus la tête. Puis, empoignant ses cheveux de la main gauche, elle lui frappa le visage avec tant de fureur, de la main droite, que le sang commença à ruisseler de son nez. Molly, cependant, n'était pas inactive. Elle arracha bientôt le torchon qui couvrait la tête de la bonne femme Brown, et empoignant ses cheveux d'une main, de l'autre, elle fit couler sur la terre un second ruisseau de sang du nez de son ennemi. Quand les combattantes se furent arrachées une portion suffisante de cheveux, leur rage se porta sur leurs vêtements. Elles s'y acharnèrent avec tant de violence qu'en peu de temps, elles se trouvèrent presque nues. Il est heureux pour les femmes que le siège de leur combat, à coups de poing, ne soit pas le même parmi elles que parmi les hommes. Mais, quoiqu'elles semblent un peu déviées de leur sexe, quand elles ne craignent pas de se battre, j'ai cependant observé qu'elles ne s'oublient jamais assez pour se frapper au sein, le moindre coup en cette partie délicate pouvant leur être funeste. Cela vient, je crois, de ce que ces sortes de femmes ont les inclinations plus sanguinaires que les hommes. Voilà pourquoi elles se visent généralement au nez, d'où le sang coule plus facilement. Mais cette supposition me semble trop hasardée et même un peu méchante. La bonne femme Brown avait à cet égard un grand avantage sur Molly, car elle n'avait point de gorge. Son sein ressemblait exactement à une vieille feuille de parchemin sur laquelle on aurait pu battre longtemps le tambour sans lui faire beaucoup de mal. Molly, outre la malheureuse situation où elle se trouvait, avait des formes toutes différentes qui auraient peut-être excité dans la vieille Brown un sentiment d'envie assez fort pour la porter à lui donner un coup fatal si l'heureuse arrivée de Tom Jones, en cet instant, n'eût mis fin à cette scène sanglante. Ce heureux hasard fut dû à M. Square, qui était monté à cheval, après l'office, avec M. Blifil et Tom Jones, pour prendre l'air. Ils avaient déjà fait un quart de mille, quand Square, changeant de pensée, non sans dessein, mais par un motif que nous développerons à notre premier moment de loisir, engagea les jeunes gens à prendre avec lui un autre chemin que celui qu'ils avaient pris d'abord. Ils y consentirent, ce qui les obligea de revenir sur leurs pas et de repasser par le cimetière. M. Blifil, qui était en avant, voyant cette foule assemblée et deux femmes dans la posture où nous les avons laissées, arrêta son cheval pour s'informer de ce qui se passait. Un paysan lui répondit en se grattant la tête, « Je n'en sais rien, monsieur, moi. Sauf votre respect, il y a eu ici une batterie entre la bonne femme Brown et Molly Seagrim. » Qui ? S'écria Tom, et sans attendre une réponse, ayant découvert les traits de sa chère Molly à travers tout son désordre, il se précipita de cheval, le laissa à l'abandon et courut à elle en franchissant la muraille. Elle lui raconta, en fondant en larmes, avec quelle barbarie elle avait été traitée. Oubliant aussitôt le sexe de la bonne femme Brown, ou peut-être dans la fureur ne la reconnaissant pas, car elle n'avait réellement d'une femme que le jupon qu'il avait pu ne pas remarquer, il lui donna un ou deux coups de fouet, et s'élançant sur la foule qui était accusée tout entière par Molly, il frappa à droite et à gauche avec tant d'activité, qu'à moins d'invoquer encore ma muse, ce que le lecteur trouverait trop cruel de ma part, l'ayant si terriblement fatigué tout à l'heure, il me serait impossible de compter tous les coups de fouet qui furent donnés dans ce jour mémorable. Après avoir nettoyé le champ de bataille de tous les ennemis qui l'infestaient, et montré autant de courage qu'aucun des plus vaillants héros d'Homère, et que Don Quichotte ou aucun chevalier errant, il revint à Molly qu'il trouva dans une situation qui me ferait trop de mal ainsi qu'à mon lecteur s'il me fallait la décrire. Tom extravaguait de la manière la plus ridicule, frappait sa poitrine, arrachait ses cheveux, trépignait avec violence et jurait de tirer la plus grande vengeance de tous ceux qui avaient battu ou insulté sa chère Molly. Puis il défit son habit, le boutonna autour d'elle, mit son chapeau sur sa tête, essuyant du mieux qu'il put avec son mouchoir le sang qui coulait sur son visage et appela le domestique en lui recommandant de courir aussi vite qu'il le pourrait et de lui rapporter une selle de femme ou un coussin pour la conduire chez elle plus commodément. M. Blifil voulut s'opposer à ce qu'on envoyât le domestique, attendu qu'il n'en avait qu'un pour eux trois. Mais il fut obligé d'y consentir, voyant que Square joignait ses ordres à ceux de Tom. Le domestique revint bientôt avec un coussin. Molly, ayant réuni autour d'elle les morceaux de sa robe, fut placée en croupe et reconduite chez elle, accompagnée de Square, de Blifil et de Tom. Lorsqu'elle fut arrivée, Tom reprit son habit, lui donna un baiser à la dérobée et lui dit à l'oreille qu'il reviendrait le soir même. Il quitta ainsi sa chère Molly et rejoignit ses compagnons. Chapitre 9. Contenant un sujet très peu pacifique. Molly n'eut pas plutôt repris ses haillons accoutumés que ses sœurs se réunirent pour ajouter encore à ses souffrances. Particulièrement sa sœur aînée, qui lui dit qu'elle avait été traitée comme elle le méritait. Comment avait-elle eu l'audace de porter une robe que la jeune Lady Weston avait donnée à sa mère? Si l'une de nous devait la porter, je pense que j'y avais le plus de droit. Mais vous avez cru, j'en suis sûr, qu'elle vous appartenait à cause de votre beauté, car vous vous croyez la plus belle de nous toutes. « Donnez-lui le morceau de glace qui est dans l'armoire, » s'écria l'autre. « Je commencerai par ôter le sang qui est sur mon visage avant d'oser parler de ma beauté. »« Vous auriez mieux fait, » s'écria l'aîné, « de vous être souvenu des sermons du ministre que de vous amuser à courir ainsi après les hommes. » « Cela est vrai, mon enfant, » dit la mère en sanglotant. « Elle nous a déshonorés. C'est la première de la famille qui ait jamais été une pute. »« Il ne faut pas me gronder pour cela, ma mère, » s'écria Molly. « Vous-même êtes accouchée de ma sœur aînée une semaine environ après votre mariage. »« Oui, coquine, » répondit la mère en fureur, « cela est vrai. Mais qu'importait alors? N'étais-je pas devenue une honnête femme? Et si cela devait vous arriver, je ne serais pas en colère. » Mais pauvre comme vous êtes, et ayant affaire à un gentilhomme, votre enfant sera bâtard. Vous pouvez y compter, coquine, et je défie qu'on puisse en dire autant de moi. C'est dans cette situation que Black George trouva sa famille en y rentrant. La femme et trois de ses filles parlaient, ou plutôt criaient toutes à la fois, en sorte qu'il se passa quelque temps avant qu'il pût trouver la possibilité de se faire entendre. Enfin, il saisit un intervalle, et raconta ce que Sophie lui avait dit. La bonne femme Seagrim, à cette nouvelle, recommença à maltraiter sa fille. « Fort bien, dit-elle, vous nous avez mises là-dedans dans de beaux draps. Que dira madame de ce gros ventre? Et pourquoi ai-je vécu pour voir ce jour ?» Molly répondit très vivement, « Et quelle est donc cette superbe place que vous avez obtenue pour moi, mon père ?» Car il n'avait pas saisi la phrase de Sophie, qui avait parlé de la prendre auprès d'elle. « Je suppose que c'est pour être sous les ordres du cuisinier, mais je ne laverai les assiettes de personne. Celui qui m'aime me traitera mieux que cela. Voyez ce qu'il m'a donné cet après-midi. Il m'a promis que je ne manquerai jamais d'argent. Et vous n'en manquerez pas non plus, ma mère, si vous voulez vous taire et bénir votre destinée. » En disant ces mots, elle tira de sa poche plusieurs guinées et en donna une à sa mère. La bonne femme n'eut pas plutôt senti l'or dans sa main que, telle est l'efficacité de ce remède universel, son humeur commença à s'adoucir. « En effet, mon mari, dit-elle, il n'y a qu'un sot comme vous qui ait pu ne pas s'informer quelle était la place qu'on lui proposait. Peut-être, comme dit Molly, la destine-t-on à la cuisine, et vraiment je ne me soucie pas que ma fille devienne une souillon. Car toute pauvre que je suis bien née. Et quoique par le décès de mon père, qui étant ministre, est mort sans me laisser un shilling, j'ai été obligé de descendre jusqu'à épouser un homme pauvre, il est bon que vous sachiez que j'ai plus de cœur que cela. Très dame, il conviendrait mieux à Madame Weston de se souvenir de ce qu'était son grand-père. Ce que je sais, c'est que plusieurs de mes parents allaient en carrosse quand les grands-pères de certaines personnes allaient à pied. Ne croit-elle pas nous avoir fait un fier cadeau de nous envoyer cette vieille robe? J'ai des parents qui n'auraient pas ramassé de semblables guenilles dans la rue. Mais les pauvres gens sont toujours méprisés. Il n'était pas besoin que toute la paroisse se soulevât si fort contre Molly. Vous auriez pu leur dire à tous, mon enfant, que votre grand-mère portait de plus belles robes, et toutes neuves encore, sortant de chez le marchand. Tout cela est fort bon, s'écria George, mais quelle réponse ferais-je à madame? « Je n'en sais rien, » lui répondit sa femme. « Voilà comme vous êtes. Vous mettez toujours votre famille dans l'embarras. Souvenez-vous du jour où vous avez tué la fameuse perdrix, qui fut la cause de tout le malheur. Ne vous conseillais-je pas alors de ne jamais aller sur les terres de M. Weston? Ne vous ai-je pas dit depuis longtemps ce qu'il en arriverait? Mais vous voulez toujours en faire à votre tête. Allez, vous n'êtes qu'un imbécile. » Black George était surtout un homme très pacifique, point du tout colère ni emporté. Mais il avait au-dedans de lui quelque chose de ce que les anciens appellent irascible, et que sa femme aurait dû craindre, si elle avait été douée d'une légère portion de prudence. Il avait souvent fait l'expérience que quand l'orage était parvenu à un certain degré de violence, les arguments n'étaient que du vent qui servait plutôt à l'augmenter qu'à l'abattre. C'est pourquoi il était rarement sans une petite houssine, remède d'une merveilleuse efficacité, comme il en avait souvent fait l'épreuve, et dont le mot d'imbécile lui inspira de faire usage. Aussitôt donc que le symptôme parut, il eut recours au sudit remède, qui, comme presque toutes les médecines vraiment efficaces, parut d'abord augmenter et enflammer le mal, mais qui produisit bientôt un calme total et rendit à la malade une tranquillité parfaite. Convenons pourtant que c'est une espèce de médecine de cheval. Il faut pour la supporter une constitution très robuste, ce qui fait qu'elle ne convient qu'aux vulgaires, excepté dans une seule circonstance, c'est-à-dire quand l'orgueil de la naissance se fait trop sentir. Dans ce cas, nous pensons qu'elle pourrait être convenablement mise en usage par tous les maris, si, comme certains remèdes qu'il n'est pas nécessaire de nommer autrement, celui-ci n'avait pas quelque chose de vil qui dégrade et souille la main de qui l'emploie, au point qu'un homme bien né ne peut pas même en supporter la pensée. La paix fut bientôt rétablie dans toute la famille, car la vertu de cette médecine, comme celle de l'électricité, se communique souvent d'une personne à un grand nombre d'autres qui n'ont point été directement touchés. À dire vrai, comme l'une et l'autre opèrent par le moyen du frottement, on pourrait soupçonner quelque analogie entre elles deux. M. Frick ferait bien de faire quelques recherches sur cette matière avant de publier la seconde édition de son livre. On tint ensuite un conseil, dans lequel, après beaucoup de débats, Molly persistant toujours à ne pas vouloir entrer en service, il fut résolu que la bonne femme Seagrim se rendrait en personne chez Miss Weston et tâcherait d'obtenir cette place pour sa fille aînée, qui déclara qu'elle était prête à l'accepter. Mais la fortune, qui semblait être l'ennemie de cette petite famille, ne consentit pas à sa prospérité.